Au Café Service, à Kinshasa, en province et à travers le pays, découvrez vos problèmes grâce au reportage service.
À Kinshasa, 3 personnes ont été blessées hier lundi lors de l'effondrement de l'immeuble de 3 niveaux Claudie Center, situé sur l'avenue Massamba au quartier Bassoko dans la commune d'Engalema, que certaines personnes appellent le quartier GB, mais c'est plutôt quartier Bassoko. Et cet immeuble s'est presque écroulé en quelques minutes hier lundi dans l'avant-midi. Le ministre de la Santé qui a supervisé les opérations d'évacuation des décombres des personnes blessées jusqu'à tard dans la nuit a indiqué que les dégâts enregistrés sont nombreux et que les blessés ont été conduits à l'hôpital. Et le bilan officiel fait état de 3 blessés. Nous avons notre confrère Berry Franklin Luchaka qui est sur place, qui est allé se rendre compte de la situation. Berry Franklin Luchaka, bonjour. Berry, vous êtes en ligne, bonjour. Voilà, on va les retrouver dans quelques instants. Je disais tout à l'heure que l'immeuble Claudie Center s'est effondré ce lundi 14 octobre dans la matinée au quartier Bassoko dans la commune d'Engalema à Kinshasa. Selon le bilan officiel, on parle des 3 blessés. Berry Franklin Luchaka, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à tous.
Alors, vous êtes sur place là où cette catastrophe est arrivée, l'écroulement de l'immeuble Claudie Center. Alors, pouvez-vous nous décrire la situation sur place, ce que vous voyez sur place maintenant?
En tout cas, ce que je vois, c'est que je suis exactement là où l'immeuble s'est écroulé. Et je suis en train de voir 2 tracteurs qui sont stationnés ici, qui apparemment ne fonctionnent pas. Les tracteurs appartiennent, je suis en train de voir que ça appartient à l'OVD. Et c'est bel et bien l'immeuble Claudie Center qui a été récemment construit et qui se trouve juste à côté du centre de la salle de fête Claudie Center. Il faut dire que la salle de fête Claudie Center a été légèrement touchée par cet effondrement, mais l'immeuble à lui-même de 7 niveaux, donc 6 niveaux où il y avait déjà les habitations, les occupants étaient déjà entrés, se sont écroulés, et un niveau qui était en chantier de construction.
Donc vous voulez dire que cet immeuble avait au total 7 niveaux?
Bien sûr, l'immeuble avait au total 7 niveaux. 6 niveaux étaient déjà occupés par les locataires ou les occupants, et un seul niveau était en train d'être construit, était en construction.
Ah, d'accord. Alors, cet immeuble est situé exactement où exactement dans la ville de Kinshasa? On parle d'Engalema, mais où exactement?
Bon, c'est comme vous l'avez dit, hein, c'est sur l'avenue Massamba. Nous sommes au quartier Bassoko. L'avenue Massamba, c'est l'avenue où vous avez l'ONG Médecins Sans Frontières et Action Contre la Faim. En fait, c'est le quartier Bassoko, c'est le quartier où réside la plupart des ONG à travers la ville de Kinshasa. Mais là où je suis, il y a effectivement certaines personnes qui sont victimes parce qu'elles ont leurs habitations ici. Une dame venait de nous faire savoir qu'elle n'avait pas passé de nuit à la maison, et qu'elle est rentrée justement hier pour retrouver sa maison, mais elle a retrouvé que sa maison n'existait plus, et puis elle s'est trouvée dans les nuages pratiquement.
Oui. Alors Berry, est-ce que vous, on parle de cet effondrement parmi les causes, on parle du non-respect des normes des constructions. Est-ce que sur place vous avez les habitants ou des gens qui peuvent témoigner?
Bon, vous savez, comme je vous ai dit, c'est un quartier où se trouve la plupart des ONG. Les habitations sont un peu dispersées, et les officiers de la police qui sont autour de ces habitations refusent carrément aux habitants de pouvoir s'exprimer là-dessus. Et c'est ce qui ne nous permet pas d'avoir des réactions à chaud de la population qui sont en train d'observer comme des personnes sans voix. Donc voilà la situation. Mais un agent de Action contre la faim, un garde de l'Action contre la faim, nous a fait savoir que les crépitements ont commencé depuis dimanche dans la soirée. Il y avait les crépitements des carreaux et les tuyaux qui étaient en train de s'éclater et tout ça. Et ça, c'est le rapport qu'il avait reçu hier lorsqu'il venait pour faire le remplacement de la personne qui avait passé là-bas à l'ONG. Et le matin, c'est autour de 8h30 qu'il a commencé à avoir un très grand tremblement. Ça ressemblait vraiment à un tremblement de terre. Berry. Dans tout le quartier, jusqu'à ce que, en l'espace de 3 minutes seulement, lorsqu'on a constaté l'écroulement total comme un château de cartes de l'immeuble.
On va pas parler des crépitements, il y avait déjà des bruits, on entendait déjà des bruits qui annonçait un danger, les débuts de l'effondrement. Voilà. Alors, mais il n'y a pas, à ce moment-là, est-ce qu'on a pu évacuer tout le monde? Comment se présentent les bilans aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a eu des morts? Il y a combien de blessés?
D'après un agent de la Croix-Rouge que nous avons trouvé sur place, parce que je dois dire qu'il y a une équipe de la Croix-Rouge, il y a aussi des ambulances qui stationnent souvent à l'hôpital du Cinquantenaire qui sont ici. Donc d'après le bilan, d'après la Croix-Rouge, c'est que on a pu dégager jusqu'hier soir, on a pu dégager juste deux personnes et il y aurait encore des personnes qui sont dans les décombres là, parce qu'il y a pratiquement comme si un niveau qui est pratiquement sévelé par les briques qui sont cassées ici.
Oui, il y a encore des décombres. D'après les bilans officiels, il y aurait trois personnes blessées hier lundi. Bon, jusque-là, on n'a pas encore les développements parce que les équipes sont sur place en train de travailler pour sortir peut-être des victimes qui sont sous les décombres. Berry, donc vous dites que dans les périmètres, il n'y a personne qui peut s'exprimer parce qu'il y a des éléments de la police qui ont ceinturé cet endroit. Merci pour toutes ces informations. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres informations à donner, Berry?
Jusque-là, il n'y a pas une autre information parce que la population est vraiment clouée. Elle ne peut pas parler.
Elle ne peut pas s'approcher des lieux. Merci, Berry, pour toutes ces informations. À la prochaine.
À la prochaine, Jolie.
À Kinshasa, sur 103.5 FM.
Bien, nous allons recevoir à présent un architecte. Il s'appelle Desso Ngandou. Desso, bonjour.
Bonjour, Jody.
Alors, vous avez appris cette catastrophe qui s'est produite, qui est arrivée au quartier Bassoko, dans la commune d'Ngalima, l'effondrement de l'immeuble Claudie Center. Vous êtes également passé par là hier, je suppose. Desso, quels étaient les constats faits?
Oui, effectivement, comme toute personne est pris de l'amour de son métier, lorsque j'ai appris toute affaire cessante, je suis descendu pour constater et être le témoin oculaire de la situation. Il est vrai qu'on a trouvé un effondrement à la verticale d'un immeuble de 6 niveaux. Et lorsque j'étais présent, et il faut dire que c'était pas facile d'accéder, étant donné que la police avait déjà ceinturé l'environnement. Mais sur place, on a entendu les cris d'une dame qui était là. Et plus tard, autour des 15 heures, lorsque je suivais les informations, j'ai vu comment on l'évacuait vers les centres hospitaliers. Mais au même moment aussi, il y avait quatre cris d'enfants. Et à un moment donné, ces cris-là ont cessé. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé par la suite. Est-ce que fatigués, ils ont dû peut-être s'endormir ou bien il y a le pire qui est arrivé? Ça, je me réserve encore de tout commenter. Ça, c'est du point de vue constant en tant qu'architecte, c'est que je puis constat comme tout le monde.
Oui.
Mais en tant qu'architecte, il faut dire que là, on vivait, on était en train d'assister à une architecture, une construction sans maître, donc une architecture sans architecte. Donc même les questions qu'on a dû poser aux habitants du quartier, aux voisins, ils faisaient voir que le monsieur s'employait à volo, il était au four et au moulin, il était en même temps conducteur, en même temps architecte, en même temps ingénieur, géomètre, il était les tout à la fois. Et voilà la conséquence qui est arrivée lorsque on s'improvise à faire les métiers des autres sans pour autant respecter les normes de l'art de bâtir.
Alors, quels sont les défauts que vous avez pu constater dans cette construction qui s'est effondrée? Qu'est-ce qui serait réellement à la base de cet effondrement?
Bon, au fait, à l'œil nu, il est difficile de faire un constat technique parce que vous savez, les barres peuvent être de 14, de 16, tout ça, mais ça répond à un certain calcul. Lorsqu'un immeuble s'effondre à la verticale, donc il faut dire que c'est une réalisation qui n'a pas respecté les normes. Je constatais que les sous-bâtiments, la fondation était solide parce que les piliers du rez-de-chaussée restaient tout vertical, mais tout le reste des niveaux s'est effondré effectivement dans 3 minutes selon les caméras des amateurs que personnellement j'ai dû aussi visionner à la télévision. Dans plus ou moins 3 minutes, cet immeuble-là s'est effondré. Donc, faut dire que ça dépasse tout commentaire, il n'y a pas eu respect de quoi que ce soit.
Mais vous dites que la fondation
s'est permis de tout faire pourvu que ça tienne et pourvu qu'il ait son loyer des locataires. Voilà.
Alors, Desso, vous dites que la fondation est assez solide pour supporter les 6 niveaux.
Non, pas pour supporter les 6 niveaux, parce que si tel était le cas, les bâtiments ne se seraient pas effondrés. Donc c'est pour dire qu'au départ, il y a des calculs préliminaires qui sont faits. Donc on construit pour un besoin. Lorsque les clients, dans une dialectique avec l'architecte ou l'ingénieur, lui dit que non, voilà, je voudrais une construction de 4 niveaux. Évidemment, l'architecte étant appelé à avoir une grande capacité d'anticipation vitale de l'espace, il peut dire, bon, il a besoin de 4 niveaux, je lui fais complicité avec mon ingénieur, on lui fait un calcul pouvant tenir 5-6 niveaux. Et là, on lui dit que voilà, vous avez besoin de 4 niveaux, mais plus tard, si vous voulez ajouter un niveau, vous pouvez le faire, vous avez le loisir de le faire. Mais est-ce que c'était le cas? Je ne pense pas. Il semble que y a une huitaine d'architectes qui sont passés par là, plus ou moins 6 ingénieurs qui sont passés par là. Donc, il faut dire que ça n'avait pas de maître d'œuvre. Parce qu'il y a, d'une part, dans ces partenariats, le maître d'ouvrage et le maître de l'œuvre. Donc, ce sont des personnes qui sont appelées à collaborer jusqu'à l'achèvement du bâtiment clé sur porte. Mais lorsque, chemin faisant, vous vous hasardez, pour une raison ou pour une autre, à vouloir remercier ces acteurs-là, à penser qu'on peut changer le maître de l'œuvre quand on veut, et de n'importe quelle manière, c'est ça aussi le début des erreurs. Donc, voilà. Selon les commentaires, ou plutôt les informations à chaud qui nous parvenaient, les premiers calculs étaient tels que le bâtiment ne pouvait pas aller à R plus 2. Parce que lorsqu'on regarde même dans ce qui reste de l'environnement, c'est une grande concession qui appartient à un monsieur, je tais les noms parce qu'il est bien connu de la place, et les restes des bâtiments tout autour, ce sont des bâtiments R plus D. Donc je suppose que pour garder l'harmonie dans cet environnement-là, les calculs étaient faits de sorte que le bâtiment aussi ne puisse pas aller au-delà des R plus D. Mais lorsqu'il s'est permis de commencer à monter, voilà ce qui est arrivé.
Alors, dites-nous des choses. Quand un immeuble s'écroule de cette façon, à qui revient la responsabilité? Est-ce que la responsabilité revient au propriétaire? C'est lui qui est responsable ou c'est l'architecte qui a conduit les travaux?
Vous vous rappelez le stade Angleterre, un stade qui s'est écroulé en Angleterre, le procès est encore là jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans. Donc, d'abord, on met en place les deux acteurs, c'est-à-dire, d'une part, le maître de l'ouvrage, et d'autre part, le maître de l'œuvre, mais dans toute responsabilité, c'est le maître de l'œuvre. Mais ici, on a affaire à un bâtiment, à un ouvrage qui n'a pas de maître d'œuvre. C'est ça la problématique. Donc, c'est-à-dire que c'est un bien sans façonnaire. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a moulé les bâtiments et qui est professionnel. Donc c'est difficile d'incomber la responsabilité à qui que ce soit. Il y a eu 6 architectes qui sont passés par là. Il y en a eu 5. Il y a eu 5 ingénieurs selon ce qu'on dit. Mais alors, à qui incombe la responsabilité? Qui a fait quoi? Et par-dessus tout, le maître d'ouvrage s'improvisait aussi en dernier lieu, en architecte, en ingénieur, en tout.
Est-ce qu'on peut dire que tous les architectes qui sont passés par là doivent être interpellés?
À mon humble avis, non. Parce que déjà, pour parler de l'interpellation, il fallait aussi qu'au départ, il puisse avoir tous les documents. Il semble aussi, ce qui est pire, que cette construction n'a même pas un permis de bâtir, une autorisation de construire. Le ministre l'a dit. Vous l'avez suivi les informations. Donc, c'est-à-dire que c'est une aventure. Dans une aventure, comment pouvoir interpeller alors les gens? C'est-à-dire qu'en amont, c'est mal parti. Donc, à mon humble avis, je me dis qu'il faudra même pas chercher à interpeller les architectes et les ingénieurs, parce que ils sont nombreux. Est-ce que c'était un collectif des ingénieurs et des architectes qui avaient pour mission de construire ensemble cet ouvrage-là? Dans ces cas-là, d'accord, on pourrait le faire venir tous pour dire qu'à tour de rôle, voilà ce que vous avez fait. Mais selon les informations, c'était pas un collectif, c'était pas un regroupement d'architectes ni d'ingénieurs. Mais c'est-à-dire que le monsieur aujourd'hui, selon tout ce qu'il passait par-dessus la tête, il se réveille d'un bon matin pour une raison ou pour une autre, il congédie un architecte, et puis quelques temps après, il le fait remplacer par un autre, alors que ce n'est pas comme ça que les choses se passent.
Bien, Deschongandou, architecte, merci et à la prochaine.
Merci beaucoup, Jody.